Chapitre 5. Dans la cantine au plafond bas, située dans un sous-sol profond, la file d'attente pour le déjeuner s'est déplacée lentement vers l'avant. La salle était déjà très pleine et le bruit assourdissant. Depuis la grille du comptoir, la fumée du ragoût se diffusait, avec une aigre odeur métallique qui n'arrivait pas à couvrir les émanations du gin de la victoire. De l'autre côté de la salle, il y avait un petit bar, un simple trou dans le mur, où l'on pouvait acheter du gin à 10 cents le grand verre. « Précisément l'homme que je cherchais !» a déclaré une voix derrière Winston. Il s'est retourné. C'était son ami Sim, qui travaillait au département de la recherche. Peut-être que « ami » n'était pas le bon mot. Vous n'aviez pas d'amis de nos jours. Vous aviez des camarades. Mais il y avait des camarades dont la fréquentation était plus agréable que d'autres. Sim était un philologue, un spécialiste du novlangue. En effet, il était l'un des membres de l'énorme équipe d'experts qui s'occupe maintenant de la 11e édition du dictionnaire novlangue. C'était une petite créature, plus petit que Winston, avec des cheveux noirs et de grands yeux protubérants, à la fois tristes et dérisoires, qui semblait fouiller votre visage de près pendant qu'il vous parlait. « Je voulais vous demander si vous aviez des lames de rasoir, » a-t-il dit. « Pas une seule, » déclara Winston avec une sorte de hâte coupable. « J'ai essayé partout. Elles n'existent plus. » Tout le monde n'arrêtait pas de vous demander des lames de rasoir. En fait, il y en avait deux inutilisées qu'il se réservait. Il y avait une disette de lames depuis des mois. Régulièrement, il y avait des articles de première nécessité qui manquaient dans les magasins du parti. Parfois il s'agissait de boutons, parfois c'était de la laine à repriser, parfois des lacets, à présent c'était des lames de rasoir. On ne pouvait mettre la main dessus qu'en fouillant plus ou moins rapidement au marché libre. « J'utilise la même lame depuis 6 semaines !» a-t-il ajouté, faussement. La file d'attente avança encore de façon sporadique. Alors qu'il s'arrêtait, Winston se retourna à nouveau vers Sim. Chacun prit un plateau métallique d'une pile au bout du comptoir. « Es-tu allé à la pendaison des prisonniers, hier ?» demanda Sim. « Je travaillais, » dit Winston avec indifférence. « Je le verrai sur le télécran, je suppose. » « Un substitut très insuffisant, » a déclaré Sim. Ses yeux moqueurs se sont posés sur Winston. « Je sais, » semblait dire ses yeux. « Je vois à travers toi. Je sais très bien pourquoi tu n'es pas allé voir cette pendaison de prisonniers. » Intellectuellement, Sim était venimeusement orthodoxe. Il parlait avec une satisfaction désagréable et jubilatoire des raids d'hélicoptères sur les villages ennemis, des procès, et des aveux des criminels de la pensée, des exécutions dans les caves du ministère de l'amour. Quand on lui parlait, il s'agissait surtout d'éviter d'aborder ces sujets et de l'entraîner, si possible, dans les détails techniques de novlangue, sur lesquels il faisait autorité et était intéressant. Winston tourna un peu la tête pour éviter l'examen des grands yeux noirs. « C'était une bonne pendaison, » se souvient Sim. « Je pense qu'il la gâche quand il leur attache les pieds. J'aime les voir donner des coups de pied. Et surtout, à la fin, la langue qui sort, raide et bleue. Un bleu assez vif, c'est le détail qui me plaît. « Suivant, s'il vous plaît !» cria un blanc-bec prolétaire avec sa louche. Winston et Sim passèrent leur plateau sous la grille. À chacun d'eux, on déposa rapidement le déjeuner réglementaire. Un petit bol en métal, plein d'un ragoût gris-rose, un morceau de pain, un cube de fromage, une tasse de café de la victoire sans lait et un comprimé de saccharine. « Il y a la table là-bas, sous ce télécran, » a déclaré Sim. « Prenons un gin en route. » Le gin leur était servi dans des tasses en porcelaine chinoise sans anse. Ils se faufilaient dans la salle bondée et vidèrent leur plateau sur la table en métal. Sur un coin de celle-ci, quelqu'un avait renversé du ragoût, une flaque écœurante, qui avait l'apparence de vomi. Winston prit sa tasse de gin, fit une pause, rassembla ses forces et engloutit le breuvage au goût huileux. Quand les larmes lui montèrent, il cligna des yeux et découvrit qu'il avait faim. Il se mit à avaler des cuillères de ragoût qui, dans un désordre général, comportaient des cubes d'une substance rosée et spongieuse qui était probablement une préparation à base de viande. Aucun d'eux ne parla plus jusqu'à ce qu'ils eurent vidé leur bol. Sur la table, à gauche de Winston, un peu derrière lui, quelqu'un parlait rapidement et en continu, à un baragouinage proche du cancanement d'un canard qui perça le tumulte général de la salle. « Comment se porte le dictionnaire ?» a déclaré Winston en élevant sa voix pour surmonter le bruit. « Lentement, » dit Sim. « Je suis sur les adjectifs, c'est fascinant. » Il s'est immédiatement illuminé en entendant le mot « dictionnaire ». Il écarta son bol, prit délicatement son morceau de pain dans une main et son fromage dans l'autre, et se pencha sur la table pour être entendu sans crier. « La 11e édition est l'édition définitive, » a-t-il déclaré. « Nous parachevons le novlangue dans sa forme définitive, la forme qu'elle aura quand plus personne ne parlera une autre langue. Quand nous en aurons fini avec elle, les gens comme toi devront la réapprendre entièrement. Tu crois, j'ose le dire, que notre principal travail est d'inventer de nouveaux mots ? Mais pas du tout. Nous détruisons les mots. Des dizaines, des centaines chaque jour. Nous tranchons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne contiendra pas un seul mot qui deviendra obsolète avant l'année 2050. » Il mordit avidement dans son pain et avala deux bouchées, puis continua à parler avec une sorte de passion pédante. Son visage émacié et sombre s'était animé. Ses yeux avaient perdu leur expression moqueuse et devenaient presque rêveuses. C'est une belle chose, la destruction des mots. Bien sûr, le grand gaspillage se situe dans les verbes et les adjectifs, mais là, ce sont des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Ce n'est pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle est la justification d'un mot qui est simplement l'opposé d'autres mots ? Un mot contient son contraire en soi. Prenez « bon », par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », pourquoi avoir besoin d'un mot comme « mauvais » ? Un bon fera tout aussi bien l'affaire. Mieux, car c'est exactement le contraire, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ou encore, si vous voulez une version plus forte du bien, quel intérêt y a-t-il à avoir toute une série de vagues mots inutiles comme « excellent »,« splendide » et tous les autres ? Le terme « plus bon » englobe tous les autres, ou « double plus bon » si vous voulez quelque chose d'encore plus fort. Bien entendu, nous les utilisons déjà, ces formules. Mais dans la version finale du novlangue, il n'y aura rien d'autre. En fin de compte, toute la notion de bonté et de méchanceté ne sera couverte que par six mots, en réalité un seul mot. Ne voyez-vous pas la beauté de la chose, Winston ? C'était l'idée de Big Brother à l'origine, bien sûr, ajouta-t-il comme si ça lui était revenu après coup. Une sorte de ferveur inconsciente traversa le visage de Winston à l'évocation de Big Brother. Néanmoins, Sim détecta immédiatement un certain manque d'enthousiasme. « Tu n'apprécies pas vraiment le novlangue, Winston, » dit-il presque tristement. « Même quand tu l'écris, tu penses toujours à l'ancienne langue. J'ai lu certains des articles que tu rédiges de temps en temps dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Dans ton cœur, tu préfères le classique, avec toute son imprécision et ses nuances inutiles. » Tu ne saisis pas la beauté de la destruction des mots. Sais-tu que le novlangue est la seule langue au monde dont le vocabulaire se réduit chaque année ? Winston le savait, bien sûr. Il souriait avec sympathie, enfin, il l'espérait, car il n'avait pas assez confiance pour parler. Sim mordit dans un autre morceau de pain noir, le mâcha brièvement et continua. « Ne vois-tu pas que le but de novlangue est de réduire le champ de la pensée ? À la fin, la criminalité de l'esprit sera littéralement impossible car il n'y aura pas de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires s'exprimeront en un seul mot, avec un sens rigoureusement défini et toutes ses significations subsidiaires seront effacées et oubliées. Déjà dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus se poursuivra longtemps après notre mort à toi et à moi. Chaque année, de moins en moins de mots et l'étendue de la conscience toujours un peu plus réduite. Déjà aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune raison ou excuse pour commettre un délit d'opinion. C'est simplement une question d'autodiscipline, de contrôle de la réalité. Mais à la fin, nous n'en aurons même plus besoin. La révolution sera complète lorsque la langue sera parfaite. La langue de l'information est Langsok. Et Langsok, c'est novlangue, a-t-il ajouté avec une sorte de satisfaction mystique. As-tu déjà pensé, Winston, qu'en l'année 2050, au plus tard, plus un seul être humain vivant ne pourra comprendre notre conversation ? Excepté, commença Winston hésitant, et il s'arrêta. Il avait sur le bout de la langue les mots « sauf les prolétaires ». Mais il se ravisa car il n'était pas certain que cette remarque n'était pas, d'une certaine manière, peu orthodoxe. Sim, cependant, avait deviné ce qu'il allait dire. « Les prolétaires ne sont pas des êtres humains », a-t-il dit négligemment. En 2050, plus tôt probablement, toute connaissance réelle de l'ancien langage aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Ils n'existeront plus que dans les versions novlangues, et pas seulement dans des versions modifiées, mais dans des versions en contradiction totale avec ce qu'ils étaient. Même la littérature du parti va changer. Même les slogans changeront. Comment pourrons-nous avoir un slogan comme « La liberté est l'esclavage » alors que le concept de liberté aura été aboli ? Le climat tout entier de la pensée sera différent. En fait, il n'y aura plus de pensée telle que nous la comprenons maintenant. L'orthodoxie signifie ne pas penser, ne pas avoir besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudainement Winston avec une profonde conviction, Sim sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop clairement. Le parti n'aime pas de telles personnes. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna légèrement de côté dans son fauteuil pour boire sa tasse de café. À la table, sur sa gauche, l'homme à la voix stridente continuait impitoyablement à parler. Une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire et qui tournait le dos à Winston, l'écoutait avidement et semblait être d'accord avec tout ce qu'il disait. De temps en temps, Winston entendit des remarques telles que « Je pense que tu as raison, je suis d'accord avec toi », provenant d'une jeune voix féminine et plutôt stupide. Mais l'autre voix ne s'arrêtait jamais, pas même lorsque la fille parlait. Winston connaissait l'homme de vue. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il occupait un poste important au sein du département de fiction. C'était un homme d'une trentaine d'années, à la gorge musclée, avec une grande bouche volubile. Sa tête était légèrement rejetée en arrière à cause de l'angle sous lequel il était assis. Le reflet sur ses lunettes présentait à Winston deux disques vierges à la place des yeux. Ce qui était plutôt horrible, c'est qu'il était impossible de distinguer un seul mot parmi le flot continu qui sortait de sa bouche. Une seule fois, Winston a saisi une phrase. L'élimination complète et définitive de Goldstein, sortie brusquement et très rapidement, tout d'un bloc, comme une ligne de caractère sans espace. Pour le reste, il n'était qu'un bruit, un caquetage. Et pourtant, bien qu'on ne puisse pas vraiment entendre ce que l'homme disait, on ne pouvait avoir aucun doute sur la nature générale de ses propos. Sans doute dénonçait-il Goldstein et exigeait-il des mesures plus sévères contre les criminels de la pensée et les saboteurs. Il pourrait fulminer contre les atrocités de l'armée eurasienne. Il pourrait faire l'éloge de Big Brother ou des héros du front de Malabar, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous pouviez être certain que chaque mot était de la pure propagande, du pur Hangsok. Alors que Winston regardait le visage sans yeux avec la mâchoire qui s'ouvrait rapidement de haut en bas, il eut la curieuse impression que ce n'était pas un vrai être humain, mais une sorte de mannequin. Ce n'était pas le cerveau humain qui parlait. C'était son larynx. Ce qui sortait de lui était constitué de mots, mais ce n'était pas un discours au sens propre du terme, c'était un bruit prononcé dans l'inconscience comme le charivari d'un canard. Sim s'était tu pendant un moment et avec le manche de sa cuillère traçait des motifs dans la flaque de ragoût. La voix de l'autre table s'est mise à jacasser rapidement, facilement audible malgré le vacarme ambiant. « Il y a un mot de novlangue, » dit Sim, « je ne sais pas si tu le connais, canelangue, caquetage de canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont deux significations contradictoires. Appliqué à un adversaire, c'est une insulte. Appliqué à quelqu'un avec qui vous êtes d'accord, c'est un éloge. » Incontestablement, Sim sera vaporisé, repensa Winston. Il le pensait avec une sorte de tristesse, tout en sachant bien que Sim le méprisait légèrement et ne l'aimait pas, et était tout à fait capable de le dénoncer comme un criminel de la pensée s'il trouvait un motif pour le faire. Il y avait quelque chose de subtil qui n'allait pas chez Sim. Il lui manquait quelque chose. De la discrétion. De la distance. Une sorte d'économie de la stupidité. On ne peut pas dire qu'il était dissident, il croyait au principe de Langsok. Il vénérait Big Brother. Il se réjouissait des victoires. Il détestait les hérétiques, pas seulement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle agité. Un goût pour l'information brûlante, rare chez les membres ordinaires du parti. Pourtant, un faible air de discrédit s'est toujours accroché à lui. Il a dit des choses qu'il aurait mieux valu ne pas dire. Il avait lu trop de livres. Il fréquentait le café du Châtaignier, lieu de prédilection des peintres et des musiciens. Il n'y avait pas de loi, pas même une loi orale, contre la fréquentation du café du Châtaignier. Pourtant, l'endroit était en quelque sorte malfamé. D'anciens dirigeants révoqués par le parti avaient utilisé cet endroit comme repère avant qu'il ne soit finalement purgé. Goldstein, lui-même, disait-on, y avait été vu parfois, des années et des décennies plus tôt. Le sort de Sim n'était pas difficile à prévoir. Et pourtant, c'était un fait que si Sim comprenait, même durant 3 secondes, la nature profonde des opinions de Winston, il le dénoncerait immédiatement à la police de la pensée. D'ailleurs, comme le ferait n'importe qui, mais Sim encore plus que la moyenne. Ce zèle ne suffisait pas. L'orthodoxie était l'inconscience. Sim leva les yeux. « Voilà Parsons, » dit-il. Quelque chose dans le ton de sa voix semblait ajouter « Quel fichu idiot !» Parsons, le voisin de Winston à la résidence Victoire, se faufilait en fait à travers la salle. C'était un homme dodu, de taille moyenne, aux cheveux blonds et au visage de grenouille. À 35 ans, il affichait déjà des bourrelets de graisse au cou et à la taille. Mais ses mouvements étaient vifs et enfantins. Son apparence était celle d'un petit garçon devenu grand. À tel point que, bien qu'il porte la salopette réglementaire, il est presque impossible de ne pas l'imaginer en short bleu, chemise grise et foulard rouge des espions. En le voyant, on se figurait toujours une image de genoux à fossettes et de manches retroussées sur des avant-bras boudinés. En effet, Parsons revenait invariablement au short dès qu'une randonnée collective ou toute autre activité physique lui en donnait l'occasion. Il les salua tous deux avec un joyeux « hola hola » et s'assit à la table. Il dégageait une intense odeur de sueur. Des perles d'humidité se détachaient de tout son visage rose. Ses pouvoirs de transpiration étaient extraordinaires. Au centre communautaire, on pouvait toujours savoir quand il avait joué au ping-pong par l'humidité du manche de la raquette. Sim avait sorti une bande de papier sur laquelle était une longue colonne de mots et l'étudiait avec un crayon à encre entre ses doigts. « Regardez-le travailler à l'heure du déjeuner, » dit Parsons en donnant un coup de coude à Winston. « C'est du zèle, hein ? Qu'est-ce que tu as là, mon vieux ? Quelque chose d'un peu trop cérébral pour moi, je suppose. Smith, mon vieux. « Je vais te dire pourquoi je vous poursuis. C'est cette cotisation que tu as oublié de me donner. »« Quelle cotisation ?» dit Winston, cherchant machinalement de l'argent. Environ un quart de son salaire doit être destiné aux souscriptions volontaires qui sont si nombreuses qu'il est difficile d'en garder la trace. Pour la semaine de la haine. Vous savez, le fonds maison par maison. Je suis le trésorier de notre quartier. Nous faisons tous les efforts possibles. On va faire un spectacle grandiose. Je vous le dis, ça ne sera pas ma faute si les vieux bâtiments de la Victoire n'ont pas le plus bel assortiment de drapeaux de toute la rue. 2 dollars que tu m'as promis. Winston trouva et remit 2 billets froissés et sales que Parsons inscrivit dans un petit carnet, avec l'écriture soignée des analphabètes. « Au fait, mon vieux, » dit-il, « j'ai entendu que mon petit schnappant de fils t'a tiré dessus avec sa fronde hier. Je lui ai passé un sacré savon pour ça. En fait, je lui ai dit que je lui confisquerais sa fronde, s'il recommençait. Je pense qu'il était un peu contrarié de ne pas être allé à l'exécution, » déclara Winston. « Ah, eh bien ce que je veux dire, il montre un bon esprit, n'est-ce pas? Ce sont des petits schnappants malicieux tous les deux. Mais parler d'enthousiasme, il pense qu'aux espions. Et à la guerre, bien sûr. Vous savez ce que ma petite fille a fait samedi dernier lorsque sa troupe était en randonnée sur la route de Berkhamsted? Elle a demandé à 2 autres filles de l'accompagner. Elles se sont dérobées de la randonnée et ont passé tout l'après-midi à suivre un homme étrange. Elles l'ont suivi pendant 2 heures à travers le bois. Et puis, quand elles sont entrées dans Hammersham, elles l'ont livré aux patrouilles. « Pourquoi ont-elles fait ça ?» dit Winston quelque peu déconcerté. Parsons continua triomphalement. « Ma gamine était sûre qu'il était une sorte d'agent ennemi, qui aurait pu être largué en parachute, par exemple. Mais voilà le point, mon vieux. Qu'est-ce qui, d'après vous, a pu la mettre sur la voie, en premier lieu ? Elle a remarqué qu'il portait une drôle de paire de chaussures. Elle a dit n'avoir jamais vu quelqu'un porter des chaussures comme ça avant. Il y avait donc des chances qu'il soit étranger. Plutôt intelligente pour une enfant de 7 ans, non ? Qu'est-il arrivé à cet homme ? Dit Winston.
Oh, ça, je pourrais pas vous le dire. Bien sûr, je serais pas tout à fait surpris si...
Parsons fit le mouvement de viser avec un fusil et claqua sa langue pour l'explosion. « Bien, » dit Sim de manière abstraite, sans lever les yeux de sa bande de papier. « Bien sûr, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de risques, » acquiesça Winston respectueusement.
« Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une guerre en cours, » a déclaré Parsons.
Comme pour le confirmer, un coup de clairon retentit du télécran, juste au-dessus de leur tête. Cependant, ce n'était pas la proclamation d'une victoire militaire cette fois-ci. Mais simplement une annonce du ministère de l'Abondance.